J'enregistre parce qu'on a des gens qui ne pouvaient pas être là l'autre jour, qui voulaient le cours. Donc, cours de soutien sur l'État. Alors, ce que je vais vous faire, c'est... on en a parlé avec votre professeur, hein, M. Berthet-Granier. Je vais vous proposer quelque chose ici sur, en lien avec la nature, la culture et l'État. Habituellement, je commence les cours par des définitions. Traditionnellement, c'est comme ça qu'on fait... en philosophie. Cette fois-ci, je vais plutôt commencer par un texte de Hobbes, et je vais vous expliquer quelques petites choses sur, sur la théorie de Hobbes, la théorie de Rousseau sur l'État. Et ensuite, je vais commenter une citation, qui est une citation d'Aristote. Et donc comme ça, vous aurez quelques données sur l'État, des choses que vous pourrez utiliser en exemple de disserte, et en même temps, on aura retravaillé la méthodologie du commentaire de texte. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit diaporama, et puis le texte, qui est un texte que vous avez dans votre manuel, qui est à la page 315 pour le manuel donc des terminales générales. C'est le texte de 3, page 315, si je ne me trompe pas, c'est le texte de Hobbes. Mais je vais l'afficher à l'écran, donc de toute façon, vous verrez tout ça. Si vous avez des questions, je vais afficher le chat. Je regarderai de temps en temps le chat pour voir si vous avez des questions. Sinon, si vous avez un truc urgent à dire, vous allumez le micro et puis vous prenez la parole. Voilà. Et j'espère que ça va marcher. J'ai l'impression que le mien, il est un petit peu lent là quand même. Hein. Donc, en espérant que ça se règle. Alors, je vais partager l'écran pour pouvoir vous montrer le diaporama et le texte. Donc, je clique dessus. Et en espérant que ça finisse par marcher. Tac, voilà. Ça, on y arrive. Donc, normalement, vous n'en avez pas encore parlé du chapitre sur la nature en cours. Ça fait bien partie des notions que vous avez à avoir pour le bac. Hop, donc ça, c'est bon. Et c'est bon pour le partage, ça va marcher. Tac, voilà. Est-ce qu'il est OK ? Il est OK. Donc, je vous montre le diaporama que j'ai prévu sur l'État, qui est ici. Tac. Philo et État. Voilà. Alors, en fait, je vais commencer peut-être par ça. C'est une image un peu bizarre. C'est une image qui vient d'un film, de Jean-Jacques Haneau qui s'appelle La guerre du feu. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle met ça ? Donc, ce sont des hommes préhistoriques, en l'occurrence. Pourquoi je vous mets ça ? C'est parce que quand on parle de l'état de nature... chez les philosophes que sont Hobbes et Rousseau, dont je vais vous parler après, nous, on imagine une société d'avant la politique, d'avant les règles de politesse, d'avant les lois, et on imagine que ça va ressembler un peu à la préhistoire. Alors pourquoi ? Parce que Hobbes et Rousseau, ce sont deux philosophes qui vont se demander comment on a fait pour s'associer entre êtres humains. À quel moment les êtres humains se sont mis d'accord pour vivre ensemble et pour avoir un chef commun. Comment ils se sont mis d'accord pour élire ce chef, pour choisir ce chef, sur quelle base ils ont décidé des règles qu'ils allaient suivre en commun. Et pour comprendre ce moment d'union des hommes, Hobbes et Rousseau, ils imaginent, je dis bien imagine, hein, parce que ça n'a pas existé comme ça, un état qui aurait existé avant la société. Et cet état-là, donc c'est un état avec un petit e, hein, c'est le fait d'être dans un certain état, je suis dans un sale état, etc. Bon, ça s'appelle l'état de nature. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en même temps que je vous montre des images, je mettrai des petites notes avec le fichier de traitement de texte. Comme ça, vous allez pouvoir suivre aussi à l'écrit. Et ceux qui auront juste la bande audio plus tard, ils pourront aussi avoir le fichier écrit. Je leur enverrai en même temps. Donc, je vais pouvoir écrire les choses principales. Vous pouvez bien sûr prendre des notes en même temps. C'est le but, hein, de prendre des notes. Alors, hop, je vous mets cet écran-là, ici, et l'autre à côté. Et donc, l'état de nature, avec un petit E, c'est quelque chose... qu'imagine Hobbes et Rousseau. Voilà, comme ça. Et donc, c'est l'état dans lequel se trouvent les hommes avant d'être associés, avant de vivre en société. C'est pour ça qu'on imagine les hommes préhistoriques. Alors, j'ai fait exprès de vous montrer cette image en espérant qu'elle ne va pas semer la confusion pour vous dire que, justement, attention, l'état de nature, c'est un état qui n'a jamais existé. Donc, en fait, les hommes préhistoriques n'étaient pas dans l'état de nature. Là, on peut le voir d'ailleurs sur l'image. Un élément, c'est qu'ils sont tous les trois. Ils sont tous les trois sur la même ligne. Visiblement, ils sont en train de se battre parce qu'il y en a un qui a une espèce de lance, là. Mais l'autre, apparemment, il a une pierre dans la main. Et ils sont tous les trois face peut-être à une bête, on ne sait pas trop, ou à des ennemis. Mais ils sont déjà associés, en fait. Donc, il ne faut pas confondre... je vous l'écris aussi. Il ne faut pas confondre état de nature et préhistoire. La préhistoire, on l'a appelée comme ça pour dire que ça commençait avant l'histoire. L'histoire, c'est la période de l'histoire, justement, la période historique, où on commence à avoir l'écriture. Et on appelle préhistoire ce qui précède l'invention de l'écriture en général et aussi le souci de garder des traces. Donc après, on a des historiens grecs dans la Grèce antique qui vont vouloir garder des traces, garder le récit de ce qui s'est passé. Et donc les historiens du 19e siècle vont décider d'appeler la période qui est antérieure à l'invention de l'écriture la préhistoire. Donc, voilà. Mais il ne faut pas confondre l'état de nature et la préhistoire. Alors pourquoi est-ce qu'on est tenté de les confondre ? Là, cette fois-ci, je vais vous présenter l'idée de Hobbes. L'idée principale de Hobbes. Donc, si on regarde Hobbes, je vous l'écris ici. Hobbes, c'est l'auteur d'un texte qui s'appelle Le Léviathan. Et le Léviathan, vous voyez, c'est ce gros bonhomme-là sur l'affiche de. Sur la page de couverture. C'est même pas la page de couverture, c'est ce qu'on appelle le frontispice. Je vais vous l'écrire ce mot. C'est la première page, en fait, quand vous ouvrez le livre. Souvent, il y a une gravure à l'époque dans ces premières pages. Et donc, sur le frontispice, on voit la représentation de ce Léviathan. Dans l'Ancien Testament, le Léviathan, c'est un monstre marin. Plutôt malfaisant, quand même. Chez Hobbes, c'est celui qui gouverne et c'est le corps des citoyens. Vous voyez qu'il est fait, si on zoome un petit peu, voilà, il est fait de tous les citoyens ensemble, en fait, le Léviathan. Et donc là, il cite d'ailleurs la Bible, il n'y a pas de pouvoir sur terre qui puisse lui être comparé. Donc c'est le pouvoir le plus important. Je vous ai traduit du latin. Hop, donc on va le remettre en grand. Donc là, on a ce Léviathan qui a le glaive de la justice d'un côté et... oui, il y a une question ?
Oui, j'ai une question, madame.
Oui.
On pourrait faire, moi du coup, dans une gobelin, on pourrait conférer cette idée que c'est le Léviathan est le corps du peuple en parlant du coup de ce frontispice. Mais ce frontispice, il arrive dans le livre originel ou il arrive sur une édition ultérieure ?
C'est l'édition de départ.
Ah d'accord, donc c'est hyper intéressant parce que ça peut être vraiment un argument.
Oui, oui, vous pouvez l'utiliser. En plus, il est très connu et il est très très souvent représenté. Donc bien, vous pouvez y aller tranquillement. Donc on voit qu'en effet, il y a les attributs du pouvoir, il y a le glaive de la justice, il y a le sceptre ici du pouvoir, en fait, et il y a la couronne pour montrer que c'est quand même plutôt du côté de la monarchie que de la démocratie. Le modèle idéal de gouvernement pour Hobbes, ce n'est pas la démocratie. Hein. Il dirait pas que c'est un tyran non plus, mais il veut un pouvoir autoritaire. Hobbes, dans le Léviathan... Donc, il se base sur des références religieuses et monarchiques et il veut expliquer, développer sa vision de l'homme et ce n'est pas une vision positive. Je ne sais pas si vous le savez déjà, ça. Pour Hobbes, la phrase la plus fameuse, c'est « L'homme est un loup pour l'homme ». Voilà. Celle-là, vous la connaissez sans doute, cette phrase-là, parce qu'elle est connue. Elle est même reprise, ça c'est la petite blague que je fais à chaque fois, alors si vous me l'avez déjà entendu dire, je suis désolée. Elle est même reprise dans un film, une espèce de comédie sentimentale très connue, qui s'appelle Dirty Dancing, où vous avez « L'homme est un loup pour l'homme et surtout pour la femme ». Bon, c'est une petite blague. Mais donc, c'est un film américain, ça explique aussi que la citation soit glissée comme ça, l'air de rien. C'est que Hobbes est un auteur britannique et qui est assez étudié dans les universités, dans les collèges britanniques et américains. Alors que nous, peut-être on tilte moins quand même. On n'aurait peut-être pas mis ça dans une comédie sentimentale. On aurait peut-être plutôt mis du Voltaire ou du Rousseau. Donc en l'occurrence, l'homme est un loup pour l'homme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cet état de nature, tel que l'imagine Hobbes, donc avant les sociétés, avant les accords entre les hommes, tout le monde est un prédateur pour l'autre et c'est dû chacun pour soi. Donc l'homme est un loup pour l'homme, vous voyez qu'il y a du singulier, hein. C'est l'homme face à l'homme, c'est pas les hommes face aux hommes. Donc on n'est pas dans cette situation-là où on a quand même trois lascars là, qui sont ensemble, mais on n'est qu'avec du face-à-face. Et un face-à-face qui est brutal, qui est animal, qui n'est pas raisonné. Et le loup, l'image du loup, elle est volontairement choisie, puisque le loup, et identifié comme un prédateur. Alors on sait bien que c'est pas si simple dans le règne animal réel, qu'en fait il mange plutôt les bêtes malades, les bêtes qui sont déjà mortes, etc. Bon, peu importe, hein. Mais l'idée dans l'imaginaire, c'est que le loup, c'est le prédateur qui inquiète. C'est celui qui va décimer les troupeaux de brebis, de moutons, etc. Et donc, si l'homme est un loup pour l'homme, c'est que avant dans l'état de nature, ce qui prévaut, c'est la force. C'est la loi du plus fort, en fait, qui compte. Et ça, normalement, ça doit vous évoquer un texte que je vais vous montrer. J'aurais dû le télécharger avant, d'ailleurs. Tac, je vais vous le montrer comme ça. Vous le connaissez, peut-être que vous avez deviné, c'est une fable de La Fontaine. Est-ce que quelqu'un pense à... voit à quelle fable je fais allusion ? Non. C'est dans Le Loup et l'Agneau. Alors, je vous montre cette fable parce qu'elle est connue. Et normalement, vous l'avez déjà lue, vous l'avez déjà rencontrée dans votre vie. Et vous pouvez très bien la citer dans une disserte sur... la force, sur la nature, sur la politique, voire même sur la justice. Cette fable, elle commence comme ça, « La raison du plus fort est toujours la meilleure », nous l'allons montrer tout à l'heure. Le loup et l'agneau, ça va être... le plus fort, ça va être le loup, évidemment. Et vous savez que d'habitude, La Fontaine finit par une leçon de morale, là, il commence par sa morale. Et en fait, c'est une morale qui n'est pas vraiment une morale, c'est-à-dire c'est un constat. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et on va voir ce que ça veut dire dans la fable, là, précisément, pour ceux qui l'auraient oublié, ou pour ceux qui la connaîtraient pas. À savoir que c'est pas tant que le plus fort a toujours raison, c'est que le plus fort, parce qu'il est plus fort, peut faire croire qu'il a toujours raison. Donc il est question ici de mauvaise foi, et il est question de la manière dont le pouvoir va interférer sur l'argumentation. Alors, si je vous le lis une fois, je vous la lis cette fable pour vous la commenter rapidement parce que elle est intéressante par rapport à Hobbes. Donc, un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure, c'est-à-dire dans le courant d'une eau pure. Un loup survient à Jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Donc, le loup est affamé. Souvent, d'ailleurs, dans les histoires, hein, depuis le Moyen-Âge au moins, le loup est affamé. Le loup, c'est celui qui a faim et qui est prêt à faire n'importe quoi pour manger. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. Là, le loup, en fait, on l'a compris dès le départ, il veut manger l'agneau, c'est tout. Et l'agneau boit de l'eau. Le loup, il n'a pas soif, il a faim. Donc s'il est en train d'interpeller l'agneau pour sous une forme d'accusation, hein, « Qui te rend si hardi de trouver mon breuvage ?» il est en train de faire un procès, en fait, à l'agneau. Pourquoi faire ? Pour pouvoir se sentir en droit de le manger. Mais de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, il va bien le manger quand même. Donc en fait, il n'y a pas de suspense du tout. Il essaie juste de justifier son acte en le faisant accepter par sa victime. Donc, qui te rend si hardi de trouver mon breuvage ? Dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Donc il lui annonce le châtiment, hein. C'est un futur indicatif, hein. C'est pas un conditionnel. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, je me vas désaltérant, c'est-à-dire je suis en train de me désaltérer dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Donc il est en train d'argumenter, l'agneau, lui, il pense qu'il est face à un vrai dialogue avec le loup, il pense qu'il y a quelque chose à sauver. Bon, il n'a pas compris que c'était inutile. Et il lui donne un argument qui est incontestable, à savoir que de là où il est, l'agneau, vu le sens du courant de l'eau, il ne peut pas gêner le loup. De toute façon, de base, il ne peut pas le gêner, mais bon. Parce que c'est comme si le loup, il buvait près du robinet et que l'agneau, il buvait les gouttes qui tombaient en dessous. Vous voyez, donc en fait, il peut pas gêner le loup, c'est pas logique. Vous aurez compris que le loup, ça n'intéresse pas ce genre d'argumentation, il veut juste avoir raison. Le loup répond: je la trouble, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Donc plutôt qu'accepter l'argument comme vrai, il le rejette, il réaffirme ce qu'il a déjà dit, tu la troubles, mais sans nouvel argument lui. Hein. Et il insiste en trouvant un nouveau chef d'accusation. Je sais que de moi tu médis l'an passé, pour trouver une nouvelle justification au fait qu'il va le manger. L'agneau répond, il n'a toujours pas compris que ça ne servait à rien, comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je tète encore ma mère. Donc, s'il a moins d'un an, évidemment, il ne peut pas avoir médit du loup l'an passé. On voit ici que tous ces arguments sont des prétextes. Le loup ne se démonte pas, évidemment. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Il cherche absolument à accuser et acculer l'agneau. Et l'agneau répond: je n'en ai point. Donc là, on est vraiment dans l'absurdité totale. Le loup échoue à trouver une bonne raison de manger l'agneau. C'est donc quelqu'un des tiens. Ça, c'est la réponse du loup. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. Là, on culmine dans l'absurde parce que depuis quand c'est le berger et le chien, ou les bergers et les chiens et les agneaux qui embêtent les loups? Bon, là, on est voilà, un argument de mauvaise foi, mais qui est patent et qui est assumé quelque part par le loup. On me l'a dit, il faut que je me venge. Donc le « il faut » est sans appel. C'est un « il faut » qui est totalement téléphoné, qui est totalement factice. Hein. En réalité, il n'y a pas d'injonction comme ça. C'est juste le loup qui veut se venger, qui veut manger surtout. Ça rime. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Vous voyez qu'il y a eu bien cette rime « venge-mange », sans autre forme de procès. Et le terme de procès est intéressant parce qu'en fait, le loup a instruit le procès de l'agneau pour pouvoir le manger. Donc là, on a eu un petit écart de littérature pour pouvoir revenir à la philo, qui est que le loup est un loup pour l'homme, enfin l'homme est un loup pour l'homme, parce que le loup, oui, c'est un loup pour l'homme, il n'y a pas de doute. Donc l'homme est un loup pour l'homme. Ici, chez La Fontaine, c'est développé par rapport à l'idée... Oui, il y a une question ? Non ? C'est développé par rapport à l'idée que à l'état de nature, l'homme se conduit selon la loi du plus fort... qui donne raison, c'est-à-dire la raison ne sert à rien en fait. Enfin, la question c'est pas ce qui est rationnel, la question c'est qui est le plus fort, et avoir raison dans ces cas-là c'est avoir le plus de pouvoir. Donc qui donne raison à celui qui est le plus puissant. Alors en l'occurrence c'est une puissance physique. Vous avez vu au niveau animal, loup, agneau, le loup a des grandes dents, il est plus vif, plus puissant que le petit agneau tout mignon là. Dans l'état de nature, il y a aussi de ça. Hein, pour Hobbes, ce qui fait, je vous l'écris, ce qui fait la puissance, hop, je l'ai mis deux fois là, fait la puissance des hommes, de certains hommes, dans l'état de nature, c'est aussi la force physique. Et donc, dans cet état de nature, j'enregistre. Dans cet état de nature, on va arriver très vite à des problèmes. Ça va pas bien marcher, puisque il va y avoir des rivalités, il va y avoir des combats, il va y avoir des conflits. Souvent deux êtres humains. Alors il met l'homme parce qu'il est dans un modèle un peu plus viriliste, on va dire. Bon, c'est peut-être que le terme est abusé, mais exagéré, mais en tout cas modèle plus masculin. Donc il va y avoir des compétitions, des rivalités, des concurrences de plusieurs personnes sur un seul objet, une seule terre par exemple, un seul bien. Là on voit par rapport au loup et l'agneau, c'est par rapport à l'eau soi-disant. Et donc on arrive à un état de guerre de tous contre tous. Ça, c'est le terme de Hobbes aussi. Donc, l'état de nature dégénère en guerre de tous contre tous. Ce qui n'est pas tenable, puisqu'on est dans une instabilité permanente où même le plus fort peut être mis en difficulté parce que tout d'un coup, il y a plus fort que lui à tel instant, dans telle circonstance, etc. Si bien que les hommes dans cet état de nature vont finir par s'accorder et se dire « il faut qu'on s'allie, il faut trouver un terrain d'attente parce que c'est pas tenable cette guerre de tous contre tous qui est permanente et qui est sans pitié ». Donc l'état de nature doit laisser la place à un accord, je vous l'écris, à un accord entre les hommes, et ça va être le contrat social. Ça, c'est un terme qui va être aussi utilisé par Rousseau, le contrat social. Il va intituler un de ses ouvrages, Le contrat social, je vais vous le montrer juste après. Donc, selon Hobbes, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme est naturellement mauvais. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on identifie avec la doctrine de Hobbes. Hein. C'est un loup pour l'homme, il est mauvais. Et on ne peut pas faire confiance spontanément à l'homme pour réguler ses relations sociales. Il faut qu'il y ait une loi qui vienne de l'extérieur, qui s'impose à lui de l'extérieur. Ça peut être une loi qu'il ait votée au départ, hein, peu importe. Mais en fait, qui s'impose à lui, qu'on puisse lui opposer, qu'on puisse l'obliger à respecter. Sinon, l'homme est naturellement mauvais et va systématiquement faire primer son intérêt personnel sur l'intérêt collectif. Ça, c'est la vision qu'a Hobbes de l'être humain et de la naissance de la société. Le deuxième auteur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Rousseau. Et alors Rousseau, il est dans les mêmes problématiques, il examine la même question, qui est celle de la naissance de la société. Et lui, c'est dans le contrat social, donc il s'appelle du contrat social. Voilà. Il l'écrit aussi, là c'est plutôt... à la moitié du 18e siècle, pardon, en 1700, là on a 62, c'est écrit en bas. Hein. Donc Rousseau, lui, a une autre vision de l'homme. Pour lui, l'homme est naturellement bon, ce qui change beaucoup de choses. Donc l'homme est naturellement bon, ce qui signifie que... alors on pourrait se dire, ah oui, mais du coup tout va bien. Si l'homme est naturellement bon, dans l'état de nature, on ne sera pas avec le loup et l'agneau, on sera face à que des petits agneaux tout mignons, et tout va bien se passer. Et en fait, non. Parce que certes, il est naturellement bon, mais les denrées, les biens, les terres ne sont pas illimitées. Et donc, il y a un moment où il va y avoir aussi compétition par rapport à des biens. Et là... l'homme qui, bien sûr, est bon, bah, il va être moins bon, tout d'un coup. Hein. Ce qu'incrimine Rousseau, ce que déplore qu'il n'y ait pas Rousseau, c'est quand même quelque chose en l'homme qui est l'instinct de propriété. Donc la volonté de s'approprier des choses, d'avoir des choses pour soi et pas pour les autres, va entraîner des conflits. Et ces conflits ne vont pas pouvoir être réglés spontanément. Il va falloir là aussi intervenir par des lois qui vont obliger donc à créer, à trouver des accords. Alors Rousseau, à la différence de Hobbes, ne plaide pas en faveur d'un pouvoir autoritaire. Rousseau pense que les hommes, parce qu'ils sont justement naturellement bons, sont capables de faire primer l'intérêt collectif sur l'intérêt particulier. Et ils sont capables aussi de prendre de bonnes décisions sur le plan politique et de s'accorder. Et donc, c'est plutôt un modèle démocratique que défend Rousseau. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est écrit, c'est assez intéressant, sur ce frontispice, qui est aussi un frontispice d'origine. Hop, je vous le mets en grand. C'est écrit « Citoyen de Genève ». Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionnait la ville de Genève à l'époque. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Oui, dites-moi.
Je crois que c'était un peu plus inspiré de ce qu'on pouvait voir en Grèce. Tout ça, enfin, il y avait un côté plus pouvoir du peuple par le peuple, je crois, que ce que les différents.
Oui, c'est ça. Ouais, c'était une démocratie dans la ville de Genève, déjà à l'époque, au XVIIIe siècle. Il y en a eu d'autres, hein, des démocraties et des républiques dans l'histoire. Il y a eu bien sûr Athènes. Qui est le grand modèle grec à l'Antiquité, mais il y a aussi eu Venise à la Renaissance, qui était prise en exemple par la Boétie, par exemple, dans le discours de la serviture volontaire. Là, Rousseau, on met en avant, c'est une édition d'Amsterdam, donc des Pays-Bas, de son texte. On met en avant, c'est pas lui qui l'a demandé, le fait qu'il est citoyen de Genève, parce que ça montre qu'il est attaché à des valeurs qui sont celles de la République et de la démocratie. Puisque lui-même, du coup, va être amené à Genève à participer à des débats, à des assemblées pour voter des lois en commun. Donc c'est une démocratie à Genève et c'est une démocratie directe, c'est-à-dire que les citoyens n'élisent pas un représentant, ils se présentent directement, c'est le cas de le dire, lors des instances politiques pour voter eux-mêmes les lois, pour ou contre les lois. Donc c'est, alors bien sûr, c'est possible parce que c'est une petite ville. Et la Suisse, de manière générale, fonctionne encore beaucoup avec un engagement citoyen assez fort. Il y a des traces de cette pratique politique-là encore aujourd'hui. On a ici deux philosophes qui sont importants sur les notions de politique, d'État, de société, de nature. Et c'est ce qu'on appelle les philosophes du droit naturel. Si un jour vous voyez philosophe du droit naturel, ça désigne en fait Rousseau et Hobbes, à minima. Il y en a quelques autres, mais ils sont peut-être un peu moins connus, enfin, un peu moins étudiés en tout cas au lycée. Donc c'est ceux qui parlent de l'état de nature, de ce qu'est le droit dans un état de nature, dans la nature, quelque sorte. Et ils y opposent ce qui relève de la convention. Alors ça, c'est le terme qu'on trouve déjà chez les sophistes, la nature à la convention. Et aussi, parfois, on utilise le terme de culture. Nature et culture. C'est le couple, en fait, de notions de philo. Qui est important à retenir ici. Donc la nature, c'est tout ce qui va correspondre à cet état de nature. On ne va pas dire état de culture pour autant, hein. On dit l'état de nature et la culture. La culture, c'est le fait de se cultiver, c'est-à-dire c'est le fait de grandir. Il y a l'image potagère, botanique, du fait de cultiver un champ, l'idée de faire grandir, de faire grossir, se développer quelque chose. Et dans le cas de la culture opposée à la nature, ici en politique, la culture, c'est tout ce que l'être humain va intégrer comme habitude seconde, donc elles ne sont pas spontanées chez lui, des comportements, des valeurs, des attitudes qu'il va intérioriser, qu'il va apprendre, qu'il va se forcer à adopter, et qui vont du coup gauchir un peu sa nature, voire transformer sa nature. C'est des notions qui sont réinvesties maintenant, notamment avec la théorie du genre sur le « on n'est pas femme, on le devient », bon ça c'est une phrase de Simone de Beauvoir, pour dire qu'il y a une différence entre la nature genrée, le fait de naître avec un sexe féminin ou masculin, et la culture, alors... On ne va pas forcément aujourd'hui développer l'idée des trans-identités, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on joue en tant qu'homme ou en tant que femme des rôles d'homme et de femme. Qu'on ne se comporte pas de la même manière, on ne s'habille pas de la même manière, ça c'est à peu près évident, hein, on ne parle pas de la même manière. Et ça se dessine au fur et à mesure de l'éducation, du développement. Et qu'en fait, on apprend à jouer ce rôle qui est associé dans nos cultures à l'homme ou à la femme. Bon, alors bon, là, ce n'est pas un cours là-dessus. Ça pourrait, hein, ça fait partie des développements possibles sur la question de la nature en philosophie. Mais en fait, l'opposition entre nature et culture, je vous dis ça parce qu'en en fait, elle est encore utilisée aujourd'hui, elle est encore pertinente aujourd'hui pour penser des choses, pour se poser des questions. Ce qu'il faut retenir par rapport à Hobbes et Rousseau, c'est que selon Rousseau en particulier, la culture, c'est plutôt négatif. Alors, ce qui est contre-intuitif, parce que pour nous, la culture, c'est bien. C'est qu'on s'élève, c'est qu'on devient plus raffiné, plus sociable, c'est qu'on a adopté des manières qui sont des bonnes manières, de la politesse et tout ça. Selon Rousseau, en fait, la culture en soi, c'est neutre, mais la culture, elle présente plus le danger de corrompre l'homme, c'est le terme qu'il utilise, hein, je vais vous le noter. Donc pour Rousseau, la culture présente le risque de corrompre l'homme, de corrompre la nature humaine, Et dans la mesure où, pour Rousseau, cette nature humaine est bonne, il a peur qu'avec une culture, le développement d'une culture, on anéantisse, on supprime les qualités positives de la nature humaine. Donc Rousseau, il est un peu méfiant par rapport à la culture, par rapport à la manière dont on va apprendre à l'homme de nouvelles habitudes, dont on va changer l'homme, puisqu'on peut le changer dans tous les sens. Donc ça peut paraître un peu bizarre comme idée, mais bon, c'est l'idée de Rousseau. Et alors, j'aimerais clore cet atelier de soutien, donc il va jusqu'à 13h10, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 13h10, donc il nous reste 7 minutes, par ce texte de Hobbes, sur justement l'état de guerre. Est-ce que quelqu'un veut le lire ? Est-ce qu'on a un volontaire ou une volontaire ?
Moi, je veux bien, si
vous... Ouais, allez-y, je vous écoute.
De plus, les hommes ne retirent pas d'agrément, mais au contraire un grand déplaisir.
Je peux te mettre un peu gros.
De la vie en compagnie, là où il n'existe pas de pouvoir capable de les tenir tous en respect. Car chacun attend que son compagnon l'estime aussi haut qu'il apprécie lui-même, et à chaque signe de dédain ou de mésestime, il s'efforce naturellement, dans toute la mesure où il l'ose, ce qui suffit largement parmi des hommes qui n'ont pas de commun pouvoir qui les tienne en repos pour les conduire à se détruire mutuellement, d'arracher la reconnaissance d'une valeur plus haute à ceux qui le dédaignent en leur nuisant aux autres par de tels exemples. De la sorte, nous pouvons trouver dans la nature humaine trois causes principales de querelle. Premièrement, la rivalité. Deuxièmement, la méfiance. Troisièmement, la fierté. La première de ces choses fait prendre l'offensive aux hommes en vue de leur profit, la seconde en vue de leur sécurité, la troisième en vue de leur réputation. Dans le premier cas, ils usent de la violence pour se rendre maître de la personne d'autres hommes, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs biens. Dans le second cas, pour défendre ces choses. Dans le troisième cas, pour des bagatelles, par exemple pour un mot, un sourire, une opinion qui diffère de la leur. Ou quelques autres signes de mésitisme que celles-ci portent directement sur eux-mêmes ou qu'elles rejaillissent sur eux, étant adressées à leur parenté, à leurs amis, à leur nation, à leur profession, à leur nom. Il apparaît clairement par là qu'aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun.
Merci. Donc vous voyez, on retrouve la formule un peu modifiée, la guerre de tous contre tous, la guerre de chacun contre chacun, en disant que l'état de nature est un état de guerre selon Hobbes. Et là, il détaille trois éléments de la nature humaine qui vont causer cette guerre permanente. Donc on a vu rivalité, méfiance, fierté. Rivalité, il y a l'idée de concurrence, d'être toujours en compétition, et ça va avec le péché ou le vice d'envie, de jalousie. On veut ce que l'autre a, donc, et on va l'obtenir par la violence, pour se rendre maître de la personne d'autres hommes, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs biens. Donc c'est se rendre maître de la personne d'autres hommes, ça veut dire assujettir les gens, en faire nos subalternes, nos employés, nos esclaves. Et puis après, les femmes, les enfants, les biens. Bon, les femmes, on peut imaginer ce qui se passe. Les enfants, c'est aussi pour les mettre en esclavage. Et puis les biens, bon, c'est du vol, hein, tout simplement. Dans le second cas, c'est le cas de tout, où on était ouf, de méfiance, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. Donc, dans la méfiance, on va se préparer à des attaques, puisque comme on est soi-même envieux, on se doute bien que l'autre doit l'être aussi. Enfin, on suppose que l'autre l'est aussi, et que l'autre va convoiter ce qu'on a. Donc, il faut se préparer, voire parfois anticiper les attaques. Il y a un adage que vous connaissez sans doute, « Pour avoir la paix, prépare la guerre ». Bon, ça, c'est un truc de Sun Tzu, un truc chinois, mais il y a cette logique quand même d'une violence, d'une guerre qui procède tout simplement du fait de vouloir se défendre, parfois par anticipation. Là, c'est défendre tout court. Hein. Ça peut être après une attaque, c'est pas précisé. Et dans le troisième cas, la fierté. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu la petite blagounette, mais si vous avez vu la trilogie de Retour vers le futur, où ce qui revient dans les trois volets, c'est la susceptibilité du personnage principal, et de son père d'ailleurs, qui réagissent au quart de tour quand on leur dit qu'ils sont une mauviette. donc ça cause plein d'événements, etc. Et qu'un des enjeux, c'est de réussir à contrôler cette fierté-là pour éviter d'entraîner des conséquences néfastes. Donc là, c'est un peu ça. Bon, vous me pardonnerez le parallèle, hein. Hobbes me pardonnera, je pense. Pour un mot, un sourire, une opinion qui diffère de la leur, quelques autres signes de mésestime, dès qu'on a l'impression qu'on nous méprise, même si c'est faux, on va être prêt, je dis « on » là pour rendre les choses un peu plus sensibles, à passer à la violence et au combat et au conflit. Et c'est pas seulement sur notre personne, c'est aussi sur la parenté, donc c'est les gens de votre famille, les amis, la nation, la profession et le nom même. Même si vous avez quelqu'un d'autre qui s'appelle exactement pareil que vous, mais avec lequel vous n'avez aucun rapport, mais qui va être attaqué ou qui semble être attaqué, vous allez avoir cette réaction de fierté. Bon, c'est aussi ce qu'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, hein, actuellement, dès que quelque chose touche de près ou de loin à des valeurs d'amis ou de parents, etc., bon, ça va être la foire d'empoigne, quoi. Donc, vous voyez le portrait que dresse Hobbes ici de la nature humaine, c'est quand même pas reluisant, hein. Et on comprend que dans ces conditions-là, on arrive à la guerre de chacun contre chacun, ce qui fait que selon Hobbes, la seule manière de sortir de ce chaos programmé, c'est un pouvoir capable de les tenir, donc les hommes, tous en respect. Il redit aussi là, un pouvoir commun qui les tienne tous en respect. Donc on a vraiment l'impression d'avoir un combat de coq ou de chien affamé, là, ou de... Et dès qu'on les lâche, ça y est, c'est la... C'est le combat à mort, et il faut un espèce de tuteur là, d'autorité centrale pour empêcher les gens de se sauter dessus pour se manger, quoi. Donc en quelques mots c'est ça, mais c'est l'image animale, c'est l'image de la meute avec un chef de meute et puis des dominés, hein. C'est vraiment chacun veut être le dominant dans la meute et ça ne finit jamais. Alors qu'on sait qu'en vrai, dans le règne animal, la meute est organisée autour d'un dominant qui, une fois qu'il a affirmé son pouvoir, va être respecté et va être suivi. Jusqu'au jour où il va avoir des signes de faiblesse, et là, il va avoir un challenger qui va prendre sa place, mais c'est quand même assez stable. C'est pas du tout ce que décrit Hobbes, hein. Hobbes, chez lui, l'homme est pire qu'un animal, en vrai, hein. Et pire qu'un loup. On pourrait aller jusque-là, quand même. Donc voilà pour ce texte de Hobbes qui est assez clair, il me semble, et qui peut vous servir pour des sujets sur l'État et sur la justice notamment, et sur la nature. Pour la prochaine fois, j'aimerais vous proposer un sujet de disserte à regarder sur la nature. Et donc ça va être tout simple. On va faire « L'homme est-il naturellement bon ?»
Madame ?
Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu un parallèle avec la vision que Montaigne avait, quand il parlait de Vertugal à un moment dans ses textes, enfin, je me rappelle, on avait quand même vu qu'il avait un certain...
Oui, alors pour les Vertugales et tout ça, c'était dans Jean de Léry, c'était le texte sur les Indiens du Brésil qui se promenaient nus, et c'était une question de est-ce que leur nudité est innocente ou est-ce qu'elle est coupable. Mais en effet, on peut faire des liens avec Montaigne sur le texte des cannibales, comme avec tous les récits d'explorateurs au moment de la découverte du Nouveau Monde. D'ailleurs, ces textes-là, ils sont reproduits dans votre manuel de philo, hein. Vous avez le Montaigne des cannibales et Jean de Léry, si je ne me trompe pas, il est aussi dedans. Donc c'est aussi des textes dans lesquels vous pouvez puiser pour des exemples. Ça vous va, la réponse ?
Oui,
c'est bon. Ok. Alors, du coup, je vous donne ça. Je vais vous le mettre sur École Directe, hein, ça. Je vais vous mettre la disserte. On fera le corrigé de cette disserte la prochaine fois. On s'est coordonné avec M. Berthet-Granier pour que moi, je traite en atelier de soutien des notions sur lesquelles il insistera un peu moins en cours. Comme ça, vous n'avez pas de redondance. Si certaines personnes veulent présenter leur plan détaillé de disserte, parce que c'est ça l'exo à faire un plan détaillé en atelier de soutien, ils sont évidemment les bienvenus. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous chercherai la prochaine fois une blague une blague philosophique. Je vais arrêter le partage d'écran, tac, sur l'état de nature et tout ça. Parce que ça existe, des blagues philosophiques, et oui. Et là, je ne sais pas si vous me voyez, parce que moi, je ne vous vois pas. Mais il y a un bouquin qui s'appelle... Faut que je réactive la caméra, peut-être. C'est un bouquin qui s'appelle « La philosophie expliquée par les blagues ». Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de vous en trouver une sympa sur l'état de nature. Et je vous en donnerai une. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon courage pour tout. Et je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Madame.
Au revoir.
Au revoir.